Chapitre 12. La première chose que j'ai apprise en tant que femme dans la police, c'était que les hommes n'étaient pas les ennemis que j'aurais cru. Une bande de péquenauds ivres dans un bar? Si mon tuteur, l'agent Lyons, sortait de voiture, c'était immédiatement l'escalade dans les petits numéros de machisme agressif. Mais si c'était moi qui me pointais, ils arrêtaient de rouler des mécaniques et contemplaient le bout de leurs chaussures comme des garnements penauds de s'être fait prendre la main dans le sac par maman. Des routiers à l'air patibulaire? De vrais agneaux quand j'étais au pied de leur camion avec un carnet de contravention. Des petits étudiants qui avaient bu quelques bières de trop. Ils bredouillaient, ne savaient plus où se mettre et finissaient presque toujours par me demander de sortir avec eux. La plupart des hommes sont conditionnés depuis leur naissance à se soumettre à une autorité féminine. Ils me voyaient soit comme la mère, à qui ils avaient appris à obéir, soit, vu mon âge et mon physique, comme une femme désirable qu'il valait la peine de satisfaire. Dans un cas comme dans l'autre, je n'étais pas une menace directe. Si bien que même le mâle le plus belliqueux pouvait se permettre de baisser la garde devant ses potes. Et que dans les situations saturées de testostérone, mes collègues m'appelaient tout de suite en renfort en comptant sur mon tact féminin pour désamorcer la situation, ce qui était généralement le cas. Il arrivait que les contrevenants masculins flirtent un peu, se troublent un peu, voire les deux. Mais imparablement, ils obtempéraient. Les femmes, en revanche, que j'arrête sur le bas-côté une mère de famille bon teint qui faisait du 95 dans sa Lexus, et aussitôt, elle montait sur ses grands chevaux en m'expliquant avec de grands cris de harpie pourquoi elle avait besoin d'aller vite, le tout devant ses 2,2 enfants, l'air tout aussi sûr de leur bon droit. Que j'escorte un type sous le coup d'une ordonnance d'éloignement pour qu'il récupère quelques effets personnels chez lui, et la petite copine maltraitée me sautait invariablement dessus en me demandant pourquoi je le laissais prendre ses sous-vêtements et m'agressait comme si j'étais la seule et unique responsable de tous ces maux. Les hommes ne sont pas un problème pour une policière. Ce sont les femmes qui essaient de vous dégommer, dès que l'occasion se présente. Mon avocat jacassait à mon chevet depuis 20 minutes quand le commandant Didi Warren a tiré le rideau de séparation d'un coup sec. L'officier de liaison, Bobby Dodge, était juste derrière elle. Le visage impénétrable. Le commandant Warren, en revanche, avait une tête de félin affamé. Mon avocat n'a pas fini sa phrase. Il semblait mécontent de la brusque apparition des deux enquêteurs, mais pas surpris. Il était en train d'essayer de m'expliquer à quel point ma situation était fâcheuse au regard de la loi. Cela ne se présentait pas bien, et le fait que je doive encore fournir une déposition complète à la police ne faisait de son point de vue d'expert qu'aggraver les choses. Pour l'instant, la mort de mon mari était répertoriée comme un homicide dont la qualification restait à préciser. L'étape suivante consisterait pour le procureur de Suffolk County à déterminer, en lien avec la police, le chef d'accusation adéquat. S'il jugeait que j'étais une victime crédible, une malheureuse femme battue dont les fréquents allers-retours aux urgences confirmaient la version, il pourrait considérer la mort de Brian comme un homicide excusable. Je lui avais tiré dessus, comme je le prétendais, en situation de légitime défense. Mais rien n'était aussi simple quand il y avait mort d'homme. Brian m'avait attaqué avec un tesson de bouteille, j'avais répliqué avec une arme à feu. Le procureur pourrait soutenir que même s'il était manifeste que je me défendais, j'avais fait usage d'une force disproportionnée. La bombe lacrymogène, la matraque ou le taser que je portais au ceinturon auraient tous été plus indiqués. Et ma détente facile me vaudrait d'être inculpé pour violence volontaire ayant entraîné la mort. À moins qu'il ne soit pas convaincu que j'avais craint pour ma vie. Peut-être qu'il croirait que Brian et moi nous étions querellés et que j'avais tué mon mari dans le feu de la dispute. Meurtre sans préméditation ou meurtre simple. Voilà pour les scénarios les plus favorables. Il y en avait un autre, bien sûr. Celui où la police conclurait que mon époux n'était pas un mari violent, mais que moi, j'étais une grande manipulatrice qui avait tué son mari avec préméditation. Assassinat ou meurtre aggravé. Autrement dit, réclusion criminelle à perpétuité. Fin de partie. Tels étaient les sujets d'inquiétude qui avaient conduit mon avocat à mon chevet. Il ne voulait pas que je me batte avec la police pour récupérer la dépouille de mon mari. Il voulait que je publie un communiqué dans lequel l'épouse maltraitée clamerait son innocence et la mère désespérée supplierait qu'on lui rende sa fille. Il voulait aussi que je coopère avec les enquêteurs. Comme il le faisait remarquer, plaider le syndrome de la femme battue était un système de défense qui ferait reposer la charge de la preuve sur mes épaules meurtries. Finalement, c'est toujours parole contre parole dans un mariage, même après la mort d'un des conjoints. Les enquêteurs de la criminelle étaient de retour. Mon avocat s'est levé d'un air gêné pour adopter une attitude protectrice à côté de mon lit. « Comme vous le constatez, ma cliente est encore sous le coup d'une commotion cérébrale, sans parler de sa pommette cassée. Son médecin lui a ordonné de rester en observation cette nuit et de prendre beaucoup de repos. « Sophie, ai-je demandé d'une voix tendue. Le commandant Warren avait l'air trop sévère pour quelqu'un qui apporte de mauvaises nouvelles à une mère, mais sait-on jamais. « Rien, a-t-elle répondu sèchement. Quelle heure est-il ? 19h32. Il fait nuit, ai-je dit tout bas. L'enquêtrice blonde m'a dévisagée. Aucune compassion, aucune sympathie. Je n'étais pas surprise. Nous sommes si peu nombreux sous l'uniforme qu'on pourrait imaginer une forme d'entraide, mais les femmes sont bizarres. Toujours prêtes à s'en prendre à une de leurs semblables, surtout si l'autre est perçue comme faible, si par exemple elle a servi de paillasson à son mari. Je n'imaginais pas le commandant Warren tolérer la moindre violence conjugale. Si un homme l'avait frappée, j'aurais parié qu'elle aurait répliqué deux fois plus fort, ou qu'elle lui aurait envoyé une décharge de taser dans les couilles. Dodge s'activait. Il avait été chercher deux fauteuils bas qu'il avait placés à côté du lit, et il faisait signe à Didi de s'asseoir. Tous deux ont encore approché leur fauteuil. Cargill a compris le message et s'est juché au bord de sa chaise, toujours l'air mal à l'aise. « Ma cliente n'est pas en état de répondre à beaucoup de questions pour l'instant. Naturellement, elle souhaite vous apporter tout le concours possible dans la recherche de sa fille. Avez-vous besoin d'informations en ce qui concerne cette enquête ?»« Qui est le père biologique de Sophie ?» a demandé le commandant Warren. « Et où est-il ?» J'ai secoué la tête, mouvement qui m'a immédiatement fait grimacer. « Il me faut un nom !» s'est agacé Warren. J'ai passé ma langue sur mes lèvres desséchées, réessayée. Elle n'a pas de père. Impossible. Pas quand la mère est une traînée alcoolique. Cargill m'a lancé un regard interloqué, mais les enquêteurs semblaient intrigués. « Vous êtes alcoolique ? » a demandé Bobby Dodge d'une voix égale. « Oui. » « Qui est au courant ? » Le lieutenant-colonel Hamilton, certains des gars. J'ai haussé les épaules en essayant de ne pas faire bouger ma joue blessée. J'ai arrêté de boire il y a 7 ans avant d'intégrer la police. Depuis, pas de problème. « Il y a 7 ans ?» a répété Didi. « Vous étiez enceinte de votre fille ?»« Exact. »« Quel âge aviez-vous quand vous êtes tombée enceinte de Sophie ?»« 21 ans. J'étais jeune et bête, je buvais trop, je faisais trop la fête. Et le jour où je suis tombée enceinte, j'ai découvert que ceux que je prenais pour mes amis me fréquentait seulement parce que je faisais partie du Barnum. De la seconde où j'ai quitté la scène, je n'ai plus revu aucun d'eux. Les hommes de votre entourage ? Ça ne vous aidera pas. Je ne couchais pas avec les hommes que je connaissais, seulement avec ceux que je ne connaissais pas. En général, des hommes mûrs que ça intéressait de faire boire une jeune idiote. Je me saoulais, ils tiraient leur coup, et on repartait chacun de notre côté.
Tessa.
Est intervenu mon avocat. Je l'ai arrêté d'un geste de la main. C'est de l'histoire ancienne, ça n'a plus d'importance. Je ne sais pas qui est le père de Sophie. Même si j'avais essayé, je n'aurais pas pu l'identifier. Et je n'avais pas envie d'essayer. Je suis tombée enceinte. Ensuite, j'ai mûri. Je me suis assagie. Et j'ai arrêté de boire. Voilà ce qui est important.
Sophie pose des questions.
A demandé Bobby. Non. Elle avait 3 ans quand j'ai rencontré Brian. Au bout de quelques semaines, elle a commencé à l'appeler papa. Je ne pense pas qu'elle se souvienne que nous avons vécu sans lui.
Quand a-t-il commencé à vous frapper ?
A demandé Didi.
Au bout d'un mois de mariage ? 6 mois ? Une année entière, peut-être ?
Je n'ai rien dit. J'ai fixé le plafond. La main droite sous la fine couverture d'hôpital verte, je serrais le bouton bleu qu'une infirmière avait ramassé pour moi.
Nous allons devoir consulter votre dossier médical, a dit Didi. Elle regardait mon avocat d'un air de défi. Je suis tombée dans les escaliers. Ma bouche s'est tordue en un sourire grotesque. C'était la vérité, en fait. Mais naturellement, ils allaient prendre ça pour le mensonge de circonstance. Mon sens de l'ironie. Ça me perdra.
Pardon ?
Les bleus sur mes côtes. J'aurais dû déneiger l'escalier extérieur. Patatras. Le capitaine Warren m'a regardée avec incrédulité.
C'est ça. Vous êtes tombée. Combien ? 3 ? 4 fois ?
Seulement 2, je crois.
Elle n'a pas goûté mon sens de l'humour. « Vous avez déposé une main courante pour coups et blessures contre votre mari ? »
a-t-elle insisté. J'ai secoué la tête. Résultat, ma nuque m'a envoyé des signaux de douleur pendant que mon œil valide se remplissait de larmes.
« Vous en avez parlé à un collègue ? À l'agent Lyons, par exemple ? Il a l'air doué quand il s'agit de donner un coup de main à la maison. »
Je n'ai rien dit.
« À des amies femmes ?»
est intervenu Bobby.
Peut-être à un prêtre ou à un numéro d'urgence. C'est pour vous aider que nous posons ces questions, Tessa.
Les larmes sont encore montées. Je les ai ravalées. Ce n'était pas à ce point-là.
Et je finis par dire en fixant les dalles blanches du plafond.
Pas au début. Je croyais que j'arriverais à le contrôler, à rétablir la situation.
Quand votre mari s'est-il mis à la musculation ?
Il y a 9 mois.
On dirait qu'il a pris quelques kilos. 15 en 9 mois ? Il prenait des produits ?
Il refusait de me le dire.
Mais il était de plus en plus baraqué. Il cherchait à augmenter sa masse musculaire ?
J'ai hoché la tête d'un air malheureux. Toutes ces fois où je lui avais dit qu'il n'avait pas besoin de s'entraîner autant, qu'il était déjà beau, bien assez musclé comme ça. J'aurais dû me douter... Son obsession de la propreté, son besoin compulsif de ranger jusqu'aux conserves de soupe. J'aurais dû décoder les signes. Mais non. La femme est toujours la dernière au courant, comme on dit.
Quand a-t-il commencé à frapper Sophie ?
A demandé Didi.
Jamais. Vraiment ? Avec votre crâne cabossé et votre pommette fracassée, vous voudriez me faire croire que votre brute de mari n'a jamais frappé que vous, et seulement vous, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?
Il aimait Sophie.
Mais il ne vous aimait pas. C'était le problème.
Peut-être qu'il prenait des stéroïdes. En voilà une idée.
J'ai regardé Bobby.
On s'en prend à n'importe qui pendant ces crises d'agressivité, a lentement fait remarquer Didi. Dans ce cas, c'est sûr qu'il vous aurait cogné toutes les deux. Je dis juste... Il n'était rentré de son dernier voyage que depuis quelques semaines, et cette fois-ci, quelque chose avait vraiment changé. Ça, ce n'était pas un mensonge. En fait, j'espérais qu'il creuserait cette piste. J'aurais bien eu besoin de 2 policiers hors pair de mon côté. Sans compter que Sophie méritait que des enquêteurs plus malins que moi viennent à son secours.
Il était plus violent,
a prudemment traduit Bobby. En colère, tout le temps. J'essayais de comprendre, j'espérais qu'il retrouverait ses marques, mais rien n'y faisait. Je tordais la couverture d'une main, serrais le bouton sous la couverture de l'autre. C'est juste... Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là, c'est vrai, nous nous aimions. C'était un bon mari et un bon père, et puis... Encore des larmes. Sincères cette fois-ci. J'en ai laissé une filer sur ma joue. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. Les enquêteurs se sont tus. À côté de moi, mon avocat s'était détendu. Je crois que ses larmes lui plaisaient et sans doute aussi l'hypothèse d'un abus de stéroïdes, un bon axe de défense.
« Où est Sophie ?»
a demandé Didi, moins hostile, plus attentive. « Je ne sais pas. » Encore une réponse sincère.
Ses bottines ont disparu. Son manteau aussi, comme si quelqu'un l'avait emmitouflé avant de l'emmener.
« Madame Ennis, ai-je demandé pleine d'espoir, c'est la nounou de Sophie.
« Nous savons qui c'est, »
m'a interrompu Didi.
« Elle n'a pas votre fille. »«
Oh. »«
Est-ce que Brian aurait une deuxième maison ?
Vieux chalet de ski, cabane de pêcheur, n'importe quoi de ce genre.
Bobby, cette fois-ci.
J'ai secoué la tête. En dépit de ma volonté, je fatiguais, je sentais mon épuisement.
Il fallait que j'augmente ma capacité de résistance, que je m'affermisse pour les jours et les nuits à venir.
Qui d'autre pourrait connaître Sophie et l'emmener de chez vous?
Didier insistait, ne lâchait pas le morceau.
Je ne sais pas. La famille de Brian?
Il a une mère, 4 sœurs. Les sœurs sont dispersées, sa mère vit dans le New Hampshire. Il faudrait leur poser la question, mais on ne les a jamais beaucoup vues. Entre son emploi du temps et le mien...
Votre famille?
Je n'ai pas de famille.
Ai-je répondu par automatisme? Ce n'est pas ce que dit votre casier judiciaire.
Pardon?
Pardon? S'est exclamé mon avocat en écho.
Aucun des enquêteurs n'a regardé Cargill.
Il y a 10 ans, quand vous avez été interrogé dans l'enquête sur la mort du jeune Thomas Howe, 19 ans, d'après le dossier, c'est votre propre père qui avait fourni le pistolet.
J'ai regardé Didier Warren pendant un temps infini. Sa figure dans la partie confidentielle de mon casier.
Ai-je dit à mi-voix. Tessa,
a lancé mon avocat mécontent. Mais j'ai parlé de cet incident au lieutenant-colonel Hamilton quand j'ai intégré la police. Je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus.
C'est-à-dire que vous ne vouliez pas qu'un de vos collègues découvre que vous aviez tué un enfant?
Tué un enfant? Ai-je répété en la Saint-Jean.
J'avais 16 ans. C'était moi l'enfant. Pourquoi vous croyez qu'ils ont mis ça dans la partie confidentielle?
De toute façon, le procureur n'a jamais engagé de poursuite. Il a jugé que c'était de la légitime défense.
Thomas m'agressait. J'essayais seulement de lui échapper.
Vous lui avez tiré dessus avec un 22, a continué Warren comme si je n'avais rien dit.
Que vous aviez sur vous, comme par un fait exprès. Et alors qu'il n'y avait aucune trace d'agression physique.
Vous avez parlé avec mon père,
ai-je dit avec amertume.
Les mots sont sortis tout seuls. Didier a penché la tête sur le côté, m'a regardé froidement.
Et il ne vous a jamais cru?
Je n'ai rien dit. C'était bien suffisant comme réponse.
Que s'est-il passé cette nuit-là, Tessa? Aidez-nous à comprendre parce que cette histoire ne plaide vraiment pas en votre faveur.
J'ai serré le bouton encore plus fort. 10 ans. C'était long. Mais pas encore assez. Je passais la nuit chez ma meilleure amie.
Ai-je enfin dit?
Juliana Howe. Thomas était son grand frère. Les dernières fois où j'y étais allée, il avait fait des remarques. Quand nous étions seuls dans une pièce, il me serrait de trop près et me mettait mal à l'aise. Mais j'avais 16 ans. Les garçons, surtout les plus âgés, me mettaient mal à l'aise.
Alors pourquoi avoir passé la nuit là-bas?
Juliana était ma meilleure amie, ai-je dit.
Et là, tout m'est revenu.
La terreur, ses larmes. Ce que j'avais perdu.
Vous avez apporté un pistolet?
Mon père m'avait donné ce pistolet,
ai-je corrigé.
J'avais trouvé un boulot à l'aire de restauration du centre commercial. Je travaillais souvent jusqu'à 11 heures du soir et ensuite, il fallait que je retourne à ma voiture dans le noir. Il voulait que je puisse me défendre.
Alors il vous a donné un pistolet?
Didi n'en revenait pas. J'ai souri. Il faudrait que vous connaissiez mon père. Venir me chercher lui-même aurait été trop impliquant. Mais en me donnant un 22 dont je ne savais absolument pas me servir, il était tranquille. Alors c'est ce qu'il a fait.
Racontez-nous cette nuit-là,
m'a demandé Bobby. Je suis allée chez Juliana. Son frère était sorti, j'étais contente. Nous avons fait du pop-corn et nous avons regardé 2 films de Molly Ringwald à la suite. 16 bougies pour Sam. Et Breakfast Club. Je me suis endormie sur le canapé. Quand je me suis réveillée, toutes les lumières étaient éteintes et quelqu'un avait mis une couverture sur moi. Je me suis dit que Juliana avait dû monter se coucher. J'allais en faire autant quand son frère est rentré. Il avait bu. Il m'a vue. Il... Les 2 enquêteurs et mon avocat attendaient. J'ai essayé de passer à côté de lui.
Ai-je finalement continué?
Il m'a coincé contre le canapé
Il m'a poussé dedans. Il était plus grand, plus fort. J'avais 16 ans, lui 19. Qu'est-ce que je pouvais faire?
Ma voix s'est de nouveau éteinte. J'ai dégluti.
Est-ce que je pourrais avoir de l'eau?
Mon avocat a trouvé le pichet sur la table de chevet, m'a servi un verre. J'avais la main qui tremblait quand j'ai levé le gobelet en plastique. Je me disais qu'il ne pouvait pas m'en vouloir de manifester de la nervosité. J'ai bu tout le gobelet et je l'ai reposé. Vu le temps qui s'était écoulé depuis mes dernières déclarations, il fallait que je réfléchisse bien. Tout était une question de cohérence, et je ne pouvais pas me permettre de faux pas à ce stade de la partie. Trois paires d'yeux me guettaient. J'ai encore pris une grande inspiration, je me suis raccrochée à ce bouton bleu et j'ai pensé à la vie, au schéma que nous répétons, au cycle dont nous sommes prisonniers. Sacrifié judicieusement. Juste au moment où Thomas allait faire ce qu'il voulait faire, j'ai senti mon sac à main sous ma hanche. Thomas me plaquait sous lui pendant qu'il ouvrait sa braguette. Alors j'ai tâté avec ma main droite, j'ai trouvé le sac, sorti le pistolet, et comme il ne voulait pas me lâcher, j'ai tiré.
Dans le salon de votre meilleur ami?
Oui. Ça a dû faire de sacrés dégâts. Ce n'est pas une arme tellement puissante, un 22.
Et votre meilleur ami? Comment a-t-elle pris la chose?
Je n'ai pas quitté le plafond des yeux. C'était son frère. Évidemment qu'elle l'aimait.
Donc, le procureur vous innocente. Le tribunal rend l'inscription au casier confidentiel. Mais votre père, votre meilleur ami, ils ne vous ont jamais pardonné, c'est ça?
Dans sa bouche, c'était une affirmation, pas une question. Alors je n'ai pas répondu.
C'est là que vous vous êtes mise à boire, a demandé Bobby Dodge.
J'ai hoché la tête sans un mot.
Vous partez de chez vous, vous arrêtez l'école.
Je ne suis pas vraiment la première policière qui a fait des bêtises dans sa jeunesse, ai-je riposté avec raideur.
« Vous tombez enceinte, » a repris Warren, « vous mûrissez, vous vous assagissez, vous arrêtez de boire. Ça fait beaucoup de sacrifices pour une enfant. »
« Non, j'ai fait ça par amour pour ma fille. »
« La meilleure chose qui vous soit jamais arrivée, la seule famille qui vous reste. »
Didi avait toujours l'air sceptique. Elle m'avertissait en quelque sorte.
« Vous avez déjà entendu parler de l'analyse des odeurs de décomposition ? » a-t-elle continué d'une voix plus forte. Arpad Vass, un chercheur en chimie et en anthropologie médico-légale. Il a mis au point une technique pour identifier plus de 400 molécules dégagées par les chairs en décomposition. Il se trouve que ces molécules restent parfois piégées dans le sol, les tissus ou même, disons, le tapis de coffre d'une voiture. En se servant d'un nez électronique, le docteur Vass peut détecter la signature moléculaire qu'un corps en décomposition aura laissée derrière lui. Par exemple, il peut passer son appareil sur le tapis d'une voiture et littéralement voir les molécules dessiner la silhouette d'un cadavre d'enfant.
J'ai fait un bruit. Suffocation, gémissement. Sous le drap, ma main s'est crispée.
Nous venons d'envoyer au docteur Vass le tapis de voiture de votre mari. Que va-t-il découvrir, Tessa?
Est-ce que ce sera la dernière image que vous aurez du corps de votre fille?
Arrêtez! Ces insinuations sont cruelles et déplacées.
Mon avocat s'était levé d'un bond. Je ne l'entendais pas vraiment. Je revoyais le moment où j'avais écarté les couvertures et contemplé avec horreur le lit vide de Sophie.
J'ai perdu mes dents de devant.
« Qu'est-il arrivé à votre fille ?» m'a pressé le commandant Warren.
Il n'a pas voulu me dire.
« Vous êtes rentrée ? Elle était déjà partie ?
J'ai cherché dans toute la maison, ai-je dit tout bas. Dans le garage, le salon d'hiver, le grenier, le jardin. J'ai cherché encore et encore. J'ai exigé qu'il me dise ce qu'il avait fait.
Que s'est-il passé, Tessa ? Qu'a fait votre mari à Sophie ?
Je ne sais pas. Elle avait disparu. Disparu, je suis partie au travail et quand je suis rentrée...
J'ai regardé Didi et Bobby et senti mon cœur s'emballer de nouveau.
Sophie, envolée, comme ça. J'ai perdu mes dents de devant.
Qu'a-t-il fait à Jean Léonie ?
Dites-nous ce que Brian a fait.
Il a brisé notre famille. Il m'a menti. Il nous a trahis. Il a tout détruit.
Encore une grande inspiration. J'ai regardé les deux enquêteurs dans les yeux.
C'est là que j'ai su qu'ils devaient mourir.